découverte de l'option robotique du lycée Astier d'Aubenas avec InfoRC.
Bonjour, moi c'est Maëlie, j'ai 17 ans, je suis en terminale générale à Astier, en option robotique.
Bonjour, je m'appelle Ethan, je suis en seconde générale technologique à Astier. En option, je fais SI et robotique, sciences d'ingénieur.
Bonjour, je suis Timéo et je suis en terminale générale, option robotique.
Bonjour, je suis William, je suis en première technologique en STI2D, sciences technologiques de l'ingénieur et du développement durable.
Et moi, je suis Guillaume Vermorel, je suis l'un des profs qui s'occupe de l'option. Je suis prof de conception de produits industriels, c'est-à-dire de dessin 3D.
On va rentrer dans le vif du sujet. L'option robotique, qu'est-ce que c'est ?
Et comme son nom l'indique, c'est une option qui a lieu donc 2 heures par semaine, les jeudis après-midi au lycée. C'est une option qui est commune à toutes les filières et tous les niveaux, c'est-à-dire seconde, première, terminale. Et on peut la faire qu'on soit de pro à général, technologique. C'est une option dans l'emploi du temps, mais en vrai c'est plutôt un projet qui a pour but donc de fabriquer un robot pour une épreuve nationale.
Alors cette année, vous êtes combien et de quel niveau ?
Donc cette année, on est une dizaine d'élèves. Donc on va avoir des secondes, des terminales et aussi des premières. On va être de toutes les filières, donc technologique, pro, général, et on va avoir aussi évidemment des filles aussi.
Vous êtes dans cette option-là, mais pourquoi vous avez choisi cette option ?
J'étais un peu intéressée quand même par les robots, par l'informatique, donc je me suis dit que ça serait sympa de voir un peu cet univers. Okay. Voilà.
Et tu étais intéressée, d'où ça vient ? Tu as vu des reportages ? Tu t'es intéressée, tu es allée voir des trucs sur l'orientation ? C'était quoi l'idée ?
Non, quand je suis arrivée au lycée, j'avais pas pris cette option parce que je connaissais pas et savais pas encore commencer à ce moment-là. Et en fait, les profs, mon prof d'informatique, d'SNT, je crois, est venu me voir et m'a dit qu'il y avait une option robotique. Alors j'ai voulu me lancer dedans.
Moi, c'est aux portes ouvertes. Quand j'étais en troisième, j'avais fait les portes ouvertes d'Astier. Et c'est quand on me présentait la filière STI2D qu'on m'a aussi présenté robotique. Ça m'a paru sympa, donc je me suis dit pourquoi pas.
Moi, c'est plus ou moins comme Miley. J'ai toujours été intéressé par le domaine de technologie et de l'innovation. Et du coup, quand j'ai vu l'option robotique, je me suis dit que ce serait bien de voir en vrai en quoi ça consistait. Parce que même si on est intéressé par un domaine, si on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste, on peut avoir des illusions à un moment. Et du coup, maintenant, ça fait 3 ans que je fais le projet et j'en suis vraiment content.
Je vais donc aussi rejoindre Maëlie et Timio. Tout ce qui va être le côté technologique, informatique, programmation va m'intéresser. Et c'est ce qui m'a poussé donc, à aller rejoindre la spécialité robotique.
Alors, tu viens de nous donner un petit peu les réponses à ma prochaine question, mais c'est pas grave, vous allez un peu développer. C'est qu'est-ce que vous apprenez dans cette option ?
Donc, en robotique, qu'est-ce qu'on apprend ? On va apprendre donc, à modéliser des pièces en 3D, donc avec des imprimantes. On va aussi apprendre tout ce qui va être codé, que ce soit en bloc, aussi en Python. On va aussi apprendre l'administratif.
Ouais, en robotique, en fait, on apprend beaucoup chaque étape globalement de la conception d'un projet. Pas exactement comme en tant qu'ingénieur, parce qu'on est quand même loin du niveau, mais on va vraiment partir de... On a un cahier des charges fourni par ceux qui nous demandent de faire le robot de cette année-là pour l'épreuve, et on va appliquer nos compétences pratiques et théoriques apprises depuis, moi en l'occurrence la seconde, dans un projet beaucoup plus concret. Et utiliser que ce soit de la physique ou des maths théoriques, ou alors ce qu'on a appliqué en option ou en spécialité sciences de l'ingénieur en 3D, en codage sur différents langages de codage. Et en fait, ça nous permet d'appliquer ce qu'on apprend en dehors de notre cours, en fait. Et du coup, ça, ça met dans leur contexte, en fait, ce qu'on a appris. Et du coup, bah, c'est très intéressant parce que ça nous permet de travailler sur autre chose que sur papier, ce qu'on fait. Et on applique et on trouve ça, c'est très visuel. On permet de comprendre pourquoi on fait ça, en fait.
Ouais, si je comprends bien, ça veut dire que c'est quelque chose de tangible par rapport à vos cours qui sont un peu théoriques. C'est quelque chose de concret et du coup, vous vous servez de ce que vous apprenez dans un projet qui est faire quelque chose, créer quelque chose.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, le robot qui est demandé pour la compétition, en fait, les règles de la compétition changent chaque année. Et du coup, l'année dernière, le robot devait attraper des choses avec un bras pour pouvoir les accrocher sur une sorte de portique. Et du coup, voilà, c'était un robot donc adapté qui a été conçu en quelques mois, en trois mois pour pouvoir faire toutes ces fonctions-là. Et cette année, le robot doit ramasser des balles au sol et les lancer dans un sorte de, on va dire, un sorte de panier de basket, mais un peu plus compliqué. Et du coup, il y a quatre robots qui compétitionnent ensemble sur un petit terrain. Et donc, du coup, à chaque fois, le robot doit être conçu de A à Z et c'est ce que font les élèves. Et nous, en tant que prof, notre objectif, c'est juste d'être là en personne ressource. On ne fait pas le travail à leur place. On les laisse vraiment tout mettre en route et faire appel à toutes leurs connaissances et leurs compétences. Et on est juste là pour dépanner, pour orienter de temps en temps quand on voit qu'ils font des mauvais choix techniques. Mais du coup, ça leur donne une très grande autonomie et ça fait d'eux des futurs adultes très, très compétents, quoi.
Et tu viens d'en parler, mais du coup, on n'en avait pas encore parlé. C'est quoi ce concours ou cette compétition à laquelle vous participez?
Le concours FIRST, c'est quelque chose qui a commencé il y a environ une vingtaine d'années aux États-Unis, il me semble, et ça a été apporté il y a 12 ans en France, dans ces alentours. Hein. Et en fait, c'est un projet qui a pour but de motiver un peu les élèves, donc à l'origine aux États-Unis, pour faire un projet donc, de robotique et avancer sur les ressources technologiques. Et en fait, ça permet après, dans l'avenir, en fait, de créer des gens qui sont intéressés dans ces domaines. Donc ça permet en fait, de booster un peu le côté technologique du pays pour les grandes avancées. Et du coup, en fait, c'est un concours. Très souvent, ça s'apparenterait à un concours de dextérité pour les robots. Donc lancer des balles dans un panier, attraper des hexagones pour les mettre sur des mosaïques, récupérer des espèces de spécimens pour les déposer sur un portique. Et du coup, le concours, il a vraiment pour but d'aider en fait, les personnes donc, qui sont dans des filières plutôt, qui sont déjà axées quand même sur de la technologie, à en apprendre plus et à les intéresser plus vers ces voies d'ingénierie ou de technicien. Et du coup, en fait, le concours, il a pour but d'aider les gens à se focaliser vers ça et à se forger une vraie expérience avant de partir en études, du coup.
Alors, du coup, on parle du robot depuis quelques minutes, mais du coup, ça serait bien qu'on décrive un peu comment il est fait, de quoi vous êtes parti, les matériaux, comment vous l'avez conçu, plein de choses.
Donc, cette année, on a acheté un nouveau châssis. Un châssis avec des roues omnidirectionnelles qui va donc pouvoir se déplacer dans toutes les directions, que ce soit en diagonale, à l'avant, ou à l'arrière ou sur les côtés. On a aussi donc un contrôleur, ce qui va nous servir à enregistrer le programme sur le robot pour pouvoir ensuite le contrôler. On a aussi la batterie qui va donc nous aider à le faire marcher, tout simplement.
Parce qu'il doit être autonome le robot ?
On a une partie autonome au début des épreuves de compétition. On a une partie autonome avec un programme qu'on doit créer. Et après, on a une partie où on va jouer compétité à la manette pour marquer des points. Donc, ensuite, on a beaucoup de parties en impression 3D sur notre robot. Donc, cette année, on devait lancer des balles. On a une partie lanceur avec des élastiques et des roulements pour pouvoir éjecter les balles. On a dû faire des calculs pour avoir un bon angle, pour avoir une bonne puissance de balle.
Donc là, on est d'accord que c'est juste une question de puissance et il n'y a pas des capteurs ou est-ce que je me trompe? Mais là, j'en vois pas, mais je vois pas tout. Est-ce que c'est juste une question de puissance et de distance avec une formule que vous avez regardée en maths et en physique ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Alors cette année, nous, oui, on a donc dû utiliser des calculs, des formules mathématiques, mais certains robots avaient donc la possibilité d'utiliser des capteurs comme une caméra Mais nous, on a du coup bénéficié de tout ce qui va être le calcul et les formules mathématiques. Pour le lanceur, oui. Okay. Après, on va aussi avoir un chargeur. Donc notre chargeur peut au maximum comptabiliser 3 balles qu'on va pouvoir lancer plus ou moins simultanément avec un certain délai entre chaque balle. On a sur la partie arrière du robot, donc vraiment tout à l'arrière, une sorte de bumper pour pousser les balles vers l'avant, donc vers le lanceur qui est donc plus ou moins à l'avant à la moitié du robot.
Et alors là, je suppose, enfin j'espère, qu'il y a des normes, c'est-à-dire que tout le robot, il va avoir, vous avez, est-ce que vous avez des balles qui sont le même prototype que vous aurez dans le concours, et comment vous vous êtes adapté à ça?
Alors c'est très 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 réglementé, à tous les niveaux, c'est-à-dire que déjà, chacune des parties qu'on utilise sur le robot doit être ce qu'ils appellent des COTS, du coup en fait c'est des parties que n'importe qui peut acheter. Bien sûr, les parties sont achetables seulement ça dans le grand public et surtout sur leur site, à eux, aux organisateurs. C'est comme ça qu'ils rentabilisent. Ou alors des choses que tout le monde pourrait utiliser. Par exemple, nous, on a utilisé beaucoup d'impressions 3D pour que ces parties correspondent réellement à notre plan de jeu. C'est-à-dire que du coup, on a des matériaux que n'importe qui pourrait utiliser avec des imprimantes 3D. Et après, il y a énormément de normes quant aux tailles et puissances et modification des objets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, par exemple, des moteurs pour qu'ils soient plus puissants. On ne peut pas dépasser une certaine taille pour le robot. La plupart du temps, c'est 45 cm par 45 par 45 cm, parce que toutes les unités sont en pouces, donc nous, on doit tout convertir. Et après, on a donc aussi des contraintes par rapport à des extensions, parce que suivant les années, on doit avoir des parties qui bougent plus ou moins sur le robot. Et donc, par exemple, l'année dernière, on avait interdiction de s'étendre à une certaine distance. Donc, c'était 1,35 m la distance maximale. Parce qu'on devait, en fait, mettre des objets dans des paniers. Et donc, si on pouvait s'étendre à la hauteur du panier, c'était trop facile. Et après, on a énormément de réglementations sur des objets qui peuvent trop nous aider. C'est-à-dire, un vérin pneumatique, par exemple, ça nous permet d'atteindre une hauteur très rapidement. Pareil pour un vérin hydraulique. Et ça, c'est interdit quasiment toutes les années parce que en fait, ce serait beaucoup trop facile parce que ça nous ôterait une partie de l'épreuve à devoir trouver des solutions technologiques nous-mêmes. En fait. Donc c'est vraiment fortement réglementé. Il y a un règlement de plus de 136 pages juste sur les parties du robot et comment on doit s'organiser pour faire le robot sans gêner les autres, sans abîmer le terrain et en restant dans leurs règles.
Plus grosse difficulté que vous avez dû résoudre, ou peut-être les trois plus grosses, ce serait quoi?
Donc déjà, en fait, on a eu plusieurs difficultés. Déjà, avec le lanceur, on a dû changer plusieurs fois les pièces. Ce qui est aussi du chargeur, on l'a bouclé à la fin, avant la compétition. Il y avait aussi le code pour la partie autonome et les roues mécanomes.
Donc, pour donner plus de précision, ce qui va être sur le chargeur et les pièces, donc... Pour les pièces, on va avoir du coup plusieurs versions de nos pièces parce qu'on a eu des problèmes de calcul, des problèmes aussi de dimensionnage des pièces trop grandes, des pièces trop petites, à cause du coup de mauvais choix, de mauvais calculs. On va aussi pour le chargeur avoir plus ou moins les mêmes problèmes, mais ça va surtout être dû à du calcul parce qu'on va avoir soit un chargeur trop grand, soit un chargeur mal fait ou même trop étroit. Et cet accumulement de pièces sur le robot va faire qu'on aura plus de chances que ça casse et qu'on doive le réparer de la précipitation.
Et après, pour ce qui est de la partie code, en fait, la partie autonome, c'est un des trucs les plus complexes parce qu'il y a deux manières de la faire. Soit on décide de calculer exactement les mouvements que vont devoir faire le robot, auquel cas, quand on le place au début de l'épreuve, il faut qu'il soit placé plus ou moins en centimètres près, sinon le code ne marche pas. Ou alors, il y a tout un jeu de capteurs, mais là, en l'occurrence, cette année, on n'a absolument pas eu le temps. Donc le code, on a dû le peaufiner peu à peu. Et ensuite, pour ce qui est des déplacements, donc on a opté pour ce qui s'appelle des roues mécanum. Donc en fait, c'est des roues qui ont des boudins en diagonale au milieu. Et en fait, ces roues, elles permettent de, au lieu que la force aille dans le sens de la roue, elle est légèrement décalée. Et du coup, suivant si on fait tourner certaines roues dans un sens ou dans l'autre, on a des déplacements en diagonale sur la gauche ou sur la droite, mais pas en tournant comme une voiture, mais réellement directement, comme un crabe en fait. Et du coup, le temps de comprendre comment marcher ces roues et de les ensuite de traduire ça en code, on a mis du temps déjà que le codage est une partie complexe du projet.
Et le code, vous avez mis combien de temps à le peaufiner? Parce que tu disais qu'il fallait partir un code et il faut qu'il marche. Enfin, le but, c'est qu'il marche. Mais vous avez fait combien de versions ou de modifications? Et c'était quoi est-ce que c'est facile d'expliquer où ça n'allait pas?
Alors, bon, en l'occurrence, moi, je ne suis pas vraiment occupé du code, mais je suis quand même allé vérifier. Et en fait, donc, le code, il est ce qu'on a en langage, un langage qu'on appelle mBlock. Donc, c'est un langage qui est plutôt facile d'accès, en fait. Ça fait des parties qui disent ces parties-là sont liées au déplacement et dedans, il y a des petites précisions. Contrairement à des langages qui sont écrits, où là, on doit tout faire nous-mêmes. Donc, ce côté-là... Et ouais, ça fait comme des touches comme des dominos. Et en fait, du coup, ça a été plus facile que les années précédentes parce qu'on avait de l'expérience. Sauf que les années précédentes, on n'avait pas le même mode de déplacement. Du coup, on a quand même dû repartir de zéro. Donc par exemple, l'année prochaine, ils n'auront pas besoin parce que là, le déplacement est déjà quasiment optimal. Il y aura des petites optimisations à faire forcément suivant l'épreuve, hein, parce qu'elle changera. Mais du coup, le code de déplacement, vu qu'on a dû repartir de zéro, ça a été complexe. Et après, les solutions... qu'on a pu apporter, en fait, c'était de s'aider avec ce qu'ont fait les Américains. Parce qu'en fait, eux, leurs épreuves commencent 2 mois avant les nôtres. Et du coup, sur les sites, soit du projet, soit de certaines des équipes, on a pu s'aider de leur expérience pour pouvoir altérer notre code dans une manière qui nous fait aller plus vite là où dans la direction dans laquelle on voulait. Et du coup, ça nous a permis de surpasser ce truc de « on doit essayer de trouver cette nouvelle manière de se déplacer dans ce langage en code. »
Et ça, dans la conception, vous avez le droit, dans les règles, de regarder, pas de pomper, mais de vous servir de ce qu'ont fait les autres. Enfin, les autres, pas les autres concurrents en France, mais les autres concurrents, comme tu dis, américains, par exemple.
Bah oui, totalement, ça fait partie du jeu. Déjà, certaines des solutions de déplacement des années précédentes ont été inspirées, on va dire, de ce qu'on avait vu en France même. Parce qu'en fait, dans l'organisation du projet, le jour de l'épreuve, on a comme des pits, donc des tables qui sont assignées à certaines équipes, et on peut aller voir les autres équipes, puisqu'on fait des alliances, et en parler avec eux. Donc ça nous est arrivé de sympathiser avec des équipes et de parler des solutions qu'ils avaient apportées. Et en fait, c'est totalement autorisé, parce que vu que ça prépare en fait, un travail qui est d'ingénieur dans le futur, on peut très bien s'inspirer des autres. Quand c'est pour ne pas les copier, par exemple, ce système de roue de lancement, on l'avait vu en partie chez des collègues américains.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez préféré dans le projet ?
Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la conception du robot, l'assemblage, tout ce qui est assemblage des pièces, etc. Et j'aime bien aussi l'esprit d'équipe.
Et de quoi tu es fière ?
Alors, je suis très fière de ce qu'on a fait cette année, parce que notre robot, cette année, est vraiment très beau. Beaucoup mieux que les années précédentes. Même si cette année, on n'était pas au plus haut de notre forme, puisqu'on n'a pas gagné la compétition. Mais je suis très fière de ce qu'on a fait cette année.
Alors moi, ce que j'ai préféré dans le projet robotique, ça va donc être, donc je vais rejoindre Maëly, tout ce qui va être la cohésion d'équipe. On va avoir différents, plus ou moins, groupes dans la conception du robot, mais se dire qu'après, on va tout mettre en commun en tant qu'équipe, voir donc ceux qui vont faire le programme, ceux qui vont aller construire les pièces, tout mettre en un tout pour donner le robot. Et c'est vraiment un sentiment agréable de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Quoi, que, alors certes, on n'est pas allé loin de la compétition, mais on a concrétisé notre projet et on peut tout de même en être fier.
Moi, ce que je préfère, en tout cas pour cette année, c'est la transmission de ce que j'ai appris du coup, sur les deux années précédentes. Parce que quand on est arrivé en seconde, on a beaucoup été derrière nos aînés en fait, de première et de terminale. Et donc là, l'expérience qu'on a acquérie, le fait de pouvoir la transmettre aux plus jeunes et de voir qu'au final, ce groupe, il vit bien, en fait. Parce qu'au final, on a quand même réussi à bien fonctionner ensemble. Donc, c'est vrai que ça, je rejoins mes deux autres compères, on va dire. C'est que, en fait, le fait d'être dans une équipe, ça nous fait déjà avoir de l'importance dans une équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas oublier. Et en fait, c'est aussi ce côté de transmission vers les plus jeunes, c'est vraiment agréable aussi.
Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans la compétition, c'est quand on était à la compétition, c'est de pouvoir voir ce que les autres équipes avaient fait, en fait, comment elles ont fait leurs robots, voir qu'elles n'ont pas utilisé du tout les mêmes mécanismes que nous et toutes les différences en fait qu'elles ont pu faire par rapport à notre robot.
Ben moi qui suis prof, du coup, j'ai un intérêt un peu différent. Moi, j'ai un intérêt pédagogique que les élèves ne voient pas forcément. Mais du coup, je suis très fier d'eux parce que du coup, on les a laissés travailler avec la plus grande autonomie. Et ils sont arrivés en 36 heures parce qu'on a 2 heures par semaine. Et au cumulé, ça fait 36 heures. En 36 heures, l'équivalent d'une semaine de travail, ils ont réussi à construire un robot de A à Z qui était fonctionnel, qui le jour J... ils ont fini même certaines petites améliorations dans le bus qui nous a amenés jusqu'à Valence. Et il y avait une grosse pression pour eux. Pour nous, pas trop, parce qu'on était juste là en tant que presque spectateurs. Et ils se sont super bien débrouillés. Alors que voilà, c'était une expérience nouvelle pour certains. Et ils ont eu un vrai travail d'équipe avec une vraie innovation tout au long de ces semaines depuis le mois de septembre.
Et peut-être une des dernières questions, ça serait votre avis sur l'option et comment vous voyez votre avenir, les débouchés. Est-ce que vous avez déjà... Alors, vous n'êtes pas tous du même niveau, donc certains pensent beaucoup et d'autres, c'est un peu loin, mais voilà.
Pour moi, l'option robotique, c'est une expérience très agréable que je pourrais recommander à tout le monde, à toute personne, fille, garçon, qui aime la technologie ou pas trop. Hein. Ça peut intéresser tout le monde. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est, comme on a dit précédemment, l'esprit d'équipe, comme une grande famille, s'entraider, concrétiser un projet. C'est vraiment un sentiment que j'ai bien aimé. Mais pour l'avenir, personnellement, je ne vais pas avoir beaucoup d'idées. C'est encore un peu flou étant en première. Mais rien qu'être en option robotique, ça va aller valoriser le dossier, montrer une certaine implication, montrer qu'on a déjà un peu pratiqué.
Moi, je trouve que l'option robotique, c'est une très bonne chose pour toute personne qui va s'orienter vers ce côté technologique par la suite, parce que ça donne beaucoup d'expérience. Et que quand on arrive, par exemple, au lycée, qu'on dit « moi, je voudrais être, par exemple, ingénieur », on a une vague idée de ce que c'est. Mais du coup, ce projet, ça permet en fait de réellement être dedans. Donc même si on reste encore seulement un projet de robotique de lycéen, ça nous permet quand même de se rendre compte de plusieurs choses. Par exemple, est-ce qu'on est capable de travailler en équipe, de surmonter des problèmes à plusieurs, de faire en fait avec un groupe.
Trouver des solutions.
C'est ça, de trouver des solutions en fait où on n'est plus seul, quand on n'est plus seul à travailler sur quelque chose. Et moi, vu que je suis en terminale, donc je pense beaucoup aux débouchés que ça peut m'apporter. Donc moi, de toute manière, j'aurais voulu faire soit ingénieur en génie mécanique, soit en robotique. Donc c'était déjà quelque chose qui était plutôt axé dans cette direction. Et ça m'a encore plus donné envie d'aller le faire, parce que j'ai trouvé que des bons côtés, en fait, finalement, à cette option. Et c'est très intéressant également par rapport à ce système de Parcoursup, parce qu'on peut valoriser, du coup, nos expériences scolaires et extrascolaires dans des milieux. Et là, en l'occurrence... On gagne énormément d'expérience sur ce travail et du coup, ça valorise énormément notre dossier.
Ben moi, j'ai globalement bien aimé la robotique, même si c'est vrai que c'était pas exactement comme j'imaginais au début. Moi, quand je n'avais pas encore fait la robotique, je pensais que ça allait être plus un cours un peu traditionnel, où on était dans une salle de classe, les professeurs nous apprenaient des choses, etc. Mais j'ai quand même été
plus de la théorie.
Plus de la théorie, ouais. Mais globalement, c'était bien quand même.
Alors pour moi, la robotique, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences. Et ce qui est bien pour la suite, bon, après la robotique, c'est un peu à côté de moi ce que je veux faire, parce que pour moi, ce que je voudrais faire par la suite, ça serait dans le développement web. C'est un peu différent de ce qu'on fait en robotique, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a aussi donné beaucoup de confiance en moi pour l'avenir.
Bah, le fait de se sentir être important dans une équipe, surtout en l'occurrence en tant que troisième année, mais du coup, cette impression ouais, d'être important dans un groupe, ça donne énormément de confiance en soi et ça permet de se rassurer sur si dans le futur, ce qu'on a choisi, qu'on aimerait faire, nous conviendrait en fait.
Oui, cette option, elle m'a servi moi à avoir un peu plus d'estime en moi-même, plus de confiance. Oui, c'est vraiment une bonne expérience.
Et ça leur a donné confiance en eux, mais surtout ça leur a mis quand même une sacrée pression. Hein. Ils le disent pas, mais quand il faut être prêt avec le robot à une date précise, du coup on a un petit stress. Et je pense que la confiance en soi, on l'acquiert une fois qu'on a réussi à surmonter ce passage difficile malgré toutes les difficultés. Donc du coup, bravo à eux et effectivement, je pense qu'ils peuvent avoir confiance en eux après cette épreuve.
Et alors, dans des projets comme ça, souvent il y a des sponsors ou des partenaires. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Donc le premier sponsor qu'on a eu, c'était As, qu'on a réussi à joindre par le biais du fait qu'en fait, c'est un des sponsors de l'événement. Et en l'occurrence, ça nous a bien servi parce que cette année, on en a eu pour 1000 euros de châssis, 300 euros de roues. Et donc sans eux, on n'aurait pas pu acheter notre matériel. Et en plus, le fait que l'inscription, c'est 250 euros, en fait, au final, on a passé tous leurs sponsors dans l'inscription de cette année, le trajet à Valence et toutes nos parties du robot qu'on a pu acheter.
On a donc obtenu aussi cette année le sponsor Gilles Durand Menuiserie à l'UEPVC qui nous a donc payé les suites qu'on s'est procurées cette année, ce qui environne à 450 euros. Ça nous a été utile, ça nous a servi à nous démarquer durant la compétition. Et on a évidemment aussi notre proviseur, Madame Azon, qui nous a soutenus tout au long de cette compétition.
Et si dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a des entreprises ou des artisans ou des parents d'élèves qui veulent nous soutenir, on est preneurs parce qu'effectivement, organiser cette petite compétition et fabriquer ce robot, ça nécessite des moyens. Donc voilà, on fait appel aux âmes charitables.
Après avoir concouru face à d'autres établissements, l'équipe Ardéchoise est maintenant prête à de nouvelles ambitions pour les prochaines années.